Je vous l'ai dit en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu viens de nous accorder, cette grâce de participer à ton repas. Nous le ferons, Seigneur, jusqu'à ton retour. Bénis ton Église. Laisse que nous puissions aller de l'avant avec toi. Croître dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance. À ce moment où nous voulons écouter ta voix, nous voulons remettre ton serviteur entre tes mains. Seigneur, que tu l'utilises pour parler au cœur de chacun de nous. Bénis toute l'assemblée. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Mettons-nous.
Pendant que l'intervenant se prépare, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons inviter l'évangéliste Daniel Mouissa et Merveille pour la lecture de la parole de Dieu.
Frères et sœurs, je vais vous proposer la première lecture dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance, consoler tous ceux qui sont dans le deuil, rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil, mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre, une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle thérapeutes de la justice, plantation du Seigneur pour montrer sa splendeur, parole du Seigneur. Amen.
Matthieu, chapitre 5. Du 13e au 16e verset. Matthieu, chapitre 5, du 13e au 16e verset, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On les jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisson, mais sur ce support. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux, parole du Seigneur. Amen.
Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous revoir ce dimanche à l'occasion non seulement de cette semaine baptismale, mais aussi à l'occasion et à la clôture de ce séminaire merveilleux que nous avons eu ensemble du lundi au hier au samedi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous clôturons cette merveilleuse semaine. Je tiens à exprimer ma gratitude au révérend paroissial, à tout son comité, mais aussi au bureau du représentant légal ici présent représenté, et à vous qui avez accepté de renouveler votre confiance en notre gare en acceptant ce qu'on vienne animer ces merveilleux séminaires. Je tiens à dire au nom de mon Église, de toute ma famille, un grand merci. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Smith Tembea. Je suis, par la grâce de Dieu, un des pasteurs de la 37e communauté des Assemblées de Dieu au Congo, la 37e KDC en sigle, et un des pasteurs en exercice au sein de l'église Phila, cité d'exaucement, ici à Goma. Je suis marié, je n'étais pas venu seul, mon épouse était bel et bien là. Ma fille, c'est la petite qui était très agitée quelque part par ici. Vous comprenez que c'est la fille d'un pentecôtiste. Elle et mon épouse ont dû partir pour des raisons professionnelles. Alléluia. Cependant, je ne suis pas venu seul non plus. Je suis venu accompagné d'un frère merveilleux du nom d'Elvis, qui est juste là, qui a tenu à nous accompagner depuis le premier jour de ce séminaire et qui a été fidèle jusqu'à ces jours. Je tiens à dire à mes frères et sœurs qui se sont fait baptiser il n'y a pas très longtemps, bienvenue dans la famille des enfants des dieux. Amen, amen. Je sais que pour certains, l'eau a été très froide, nous avons vu, les images sont restées. Pour d'autres, l'eau a été agréable, certainement que c'est de petits poissons, mais nous avons aussi remarqué qu'il y a de ceux qui nagent comme des pierres, qui aiment les profondeurs. Alléluia. Merci aussi au pasteur Fiston qui est notre modérateur aujourd'hui, un homme merveilleux que j'ai appris à connaître et une très grande bénédiction pour plusieurs. Nous allons encore prier. Père, parle-nous. Selon que l'a demandé ton serviteur, dispose le cœur de tout un chacun afin que cette parole, telle une semence, porte de fruits pour ta vie jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, amen. Tous ceux qui ont leur Bible, nous allons rapidement dans le livre de Matthieu, le chapitre 26. Nous lirons seulement, faute de temps, le verset 39. Matthieu 26, le verset 39, la Bible dit, commençons quand même au verset 38, « Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen, amen. Amen, amen. Depuis le premier jour, nous avons commencé à parler de la vie d'impact. Et toute la semaine, nous avons développé le prix à payer pour mener ou parvenir à cette vie d'impact. Le temps me manquerait de brosser les bénédictions que le Seigneur nous a permis de partager ensemble. Cependant, je nous invite à retenir quelques éléments avant d'aller plus loin. Premièrement, un petit rappel, nous ne pouvons influencer cette génération si nous ne nous distinguons d'elle. La distinction au milieu d'une génération perverse est celle qui nous donnera de l'ascendance sur elle. Deuxièmement, pour ceux qui écrivent, notez, qui veut impacter doit être prêt à payer le prix de l'exemplarité. C'est une chose que d'enseigner cette matière, c'est une chose que de parler de ces sujets, mais si nous voulons impacter à l'extérieur, nous devons prêcher au-delà de nos mots, mais aussi par notre style de vie. Troisièmement, pour ceux qui écrivent, tout le monde veut impacter, mais très peu y parviennent. Très peu, c'est un constat malheureux. Pourquoi ? Parce que très peu sont prêts à payer le prix qu'exige la vie d'impact. Quatrièmement, pour ceux qui écrivent, le conformisme est un obstacle à la distinction. Je veux répéter, le conformisme est un obstacle à la distinction. Ne peut se distinguer que celui qui se détache du lot. Ne peut se distinguer que celui qui prend le risque d'afficher sa différence. Ne peut se distinguer et mener une vie d'impact que celui qui accepte sa singularité. Alléluia. Cinquièmement, selon votre comptabilité, la peur et l'intimidation, ce sont deux instruments de la servitude et de la dissuasion. La peur et l'intimidation sont deux instruments, deux armes efficaces que le monde, la chair, le diable utilisent pour nous décourager, nous maintenir dans le conformisme, dans la compromission et nous empêcher d'atteindre ou d'aspirer à une vie d'impact. Suivant, les ambitions personnelles et égoïstes, pour ceux qui écrivent, notez, sont les germes de l'orgueil. Les ambitions personnelles et égoïstes sont des germes de l'orgueil. J'aimerais dire à quelqu'un, déjà à l'introduction, que Dieu prend plaisir à l'unité du corps. Il prend plaisir à l'unité. Et à la lumière du texte que nous avons lu, nous verrons aujourd'hui un autre prix à payer, pas le dernier, juste un autre parce que la liste est bien longue, mais aujourd'hui nous verrons un prix que j'appellerai la mère ou la racine de tous les autres prix que nous avons appris à discerner ensemble. Nous allons nous inspirer de la vie et du ministère de Jésus pour étudier ensemble l'obéissance. Dis à ton voisin l'obéissance. L'obéissance est un des prix à payer. J'irai même plus loin pour dire l'obéissance est la mère et la condition sine qua non pour quiconque veut mener ou expérimenter une vie d'impact. La vie et le ministère de Christ nous enseignent qu'il était totalement consacré, non seulement totalement consacré, mais qu'il appartenait totalement au Père. Sa vie ne lui appartenait. Ésaïe va même plus loin, il dit, « Me voici, je suis là non pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. » Hébreux 5, 7, la Bible dit, « Celui qui dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, il s'agit de Jésus, et avec larmes de prière et de supplication, à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, d'après la traduction Louis Segond. Cependant, la Bible Semeur traduit cette dernière phrase à cause de sa piété, traduit piété comme soumission. Et la Bible Parole de Vie, au lieu de soumission, traduit plutôt parce qu'il était resté fidèle. Pour ceux qui écrivent, j'aimerais anticiper et dire que l'obéissance est une expression de notre fidélité à Dieu. L'obéissance, et nous allons le voir, est une manifestation de notre soumission à Dieu. Et qui veut mener une vie d'impact doit accepter de rester fidèle, doit accepter de se soumettre totalement, sans partie, sans réserve, à Dieu. Voyons deux petites définitions du mot, du verbe « obéir » qui ont attiré mon attention et que je tiens à partager avec vous ce matin. Premièrement, « obéir » veut dire se soumettre à une demande ou encore à une règle, à une obligation d'une personne. « Obéir », c'est se soumettre à une demande, c'est se soumettre à une règle ou à une obligation d'une personne. Ou encore, c'est exécuter un ordre donné. « Obéir », c'est se soumettre. Obéir, c'est exécuter l'ordre qui a été donné. Ce n'est pas faire ce que je veux, se faire ce qui m'a été demandé ou encore ordonné de faire. Je viens dire à mes frères qui viennent de se faire baptiser que la marche avec le Seigneur n'est pas une marche de négociation à l'ordre du Seigneur, mais une vie d'exécution et d'obéissance à ce qu'il nous dit de faire. C'est seulement comme ça que nous pouvons atteindre et mener et devenir le reflet de cette vie d'impact à laquelle plusieurs aspirent, en acceptant de se distinguer au milieu d'une génération rebelle par notre obéissance à Dieu. En d'autres termes, ou encore, deuxième définition, obéir, c'est se laisser gouverner C'est laisser gouverner. J'aime bien ce chant qui dit que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Là où l'orgueil régnait, que l'orgueil disparaisse et que Jésus règne. Là où l'égoïsme régnait, que l'égoïsme disparaisse et que Jésus règne. Là où toute autre chose ou tout autre nom que celui de Christ régnait, que ce nom disparaisse afin que seul Jésus règne. Et que lorsque le monde nous verra sans clamer haut et fort que nous sommes chrétiens, que le monde voie Christ au travers de nos actions, de nos réactions et de nos décisions. Pour ceux qui écrivent, notez, obéir, c'est se soumettre et faire ce qui nous a été ordonné, que cela nous plaise ou non. Ça, c'est important. Parce que plusieurs obéissent quand cela les arrange. Oui, oui, il est très facile d'obéir quand cela est le résultat d'une négociation. Gagnant, gagnant. Il arrivera dans la marche avec le Seigneur qu'il nous donne un ordre sans trop savoir ce que nous avons à gagner. Pourquoi nous le faisons? Parce qu'il nous l'a ordonné. Pourquoi nous a-t-il ordonné cela? Parce que nous lui appartenons. Quand est-ce que nous sommes devenus sa propriété? Le jour où le sang de son fils Jésus nous a rachetés du péché et le jour où, devant une grande foule, nous avons confessé notre foi et notre appartenance. Que cela nous plaise ou non, nous sommes appelés à obéir. Matthieu 6, 9 à 10, la Bible, Jésus parlant, enseignant à ses disciples comment prier, va leur dire, lorsque vous priez, ça c'est suivant, dites que ta volonté soit faite. F-A-I-T-E, faite. Et non F-E, accent circonflexe, P-E, non, non. Que ta volonté soit faite et non festive. Il est important de comprendre cette différence. Lorsque nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit », en d'autres termes, fais de moi le canal de l'exécution de ta volonté au milieu de ma génération. Qu'elle soit festive ou pas, qu'elle soit plaisante ou pas, dis un mot et je le ferai parce que je t'appartiens. Alléluia. Matthieu 26, le verset 39, Jésus lui-même, le texte que nous avons lu, se présente comme un exemple d'obéissance, un exemple de soumission. L'obéissance ne sous-entend pas que je n'ai pas de volonté. L'obéissance sous-entend que j'ai une volonté propre, mais malgré ma volonté propre, je renonce à ma volonté propre pour me soumettre à la volonté parfaite de celui à qui je prêtais allégeance. J'ai une volonté, je veux faire ce que je veux, mais je renonce à ce que je veux parce que je reconnais la sagesse de celui à qui j'appartiens, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus lui-même est un exemple parfait. Il frémit, il a peur, il tremble, il pleure, il grince dedans, il voit la souffrance qui arrive, mais il dit, Seigneur, peux-tu ôter cette coupe sans que je ne la boive? Ne serait-il pas possible que je rachète le monde sans passer par cette souffrance? Il émet un avis, mais il conclut en disant, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté, et ta volonté soit faite. Si on pouvait prier ainsi, je crois que le Seigneur nous exaucerait rapidement, mes frères. Seigneur, j'aime cette sœur, mon cœur bat pour elle. Quand je la vois, je perds l'usage de ma bouche, de ma langue. Je deviens bavard et même parfois timide. Mais si il te plaît que je l'épouse, alors fais-le. Toutefois! Il est difficile de dire toutefois quand le cœur a déjà choisi. Dis, difficile. Que Dieu nous donne, mes frères et sœurs, d'être capables de reconnaître et d'accepter, que dis-je, de se soumettre à la volonté de Dieu, même quand elle est contraire à ce qui nous réjouit, même quand elle est contraire à ce que nous voulons. Que Dieu nous donne un cœur soumis. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, prêche avec moi ce matin, sois obéissant. J'ai plein ceux qui sont assis à côté du bureau paroissial et du bureau de la représentation légale. Mais je ne regarde pas là, je te parle à toi. Dis à ton voisin, sois obéissant. Notez cinq grandes qualités de l'obéissance de Christ. Notez cinq grandes qualités de l'obéissance de Christ.
Comment doit être l'obéissance d'un enfant de Dieu? Ce prix que nous sommes appelés à payer. Premièrement, notre obéissance à Dieu doit être totale. Totale. Deuxièmement, notre obéissance à Dieu doit être sans murmure. On n'obéit pas en avançant, en tapant de pied. En d'autres termes, si j'avais la possibilité de refuser, j'aurais refusé. C'est généralement ce que font les enfants quand les parents insistent et ordonnent quelque chose. Je dis « va ». L'enfant y va, mais le cœur est resté. Alléluia. Un peu comme à l'école, lorsque les directeurs qu'on n'apprécie pas beaucoup disent « à genoux », il nous arrive de nous mettre à genoux, mais on reste debout dans notre orgueil. Si on pouvait, on pouvait dire au directeur « je suis à genoux, mais mon cœur, il est debout ». En d'autres termes, je ne reconnais pas ton autorité. Mais lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu sans murmure, cela veut tout simplement dire « je m'incline devant ta Seigneurie, je reconnais ta volonté parfaite et je m'incline devant ta sagesse ». Sans murmure, sans hésitation, à l'instar de la vie d'Abraham, ce monsieur m'a toujours étonné. Même quand on lui demande son fils, la Bible dit, le lendemain matin, il prit son fils, celui qu'il aime, et il alla pour le sacrifier. Un mouchamouka centenaire. Mes frères, qui a 100 ans ici? Mais Abraham a été le mouchamouka à la lumière des hommes le plus insensé. Permettez-moi l'expression. Parce que le monsieur va tuer un fils qu'il a attendu pendant 100 ans sans même poser une question à Dieu. Quelle est la garantie que tu me donnes que mon fils va revenir? Il s'est levé, il est parti. Et la Bible nous renseigne qu'il croyait dans son cœur que Dieu allait le ressusciter. Mais Abraham, où as-tu vu l'exemple de la résurrection? Abraham s'est souvenu de ce que Dieu lui avait dit dans Genèse 17. « Je suis El Shaddai, tout puissant, marche devant ma face et sois intègre et je te donnerai de l'impact. » Sans hésitation doit être notre obéissance à Dieu, mais aussi une obéissance exemplaire, exemplaire, que ceux autour de nous constatent que nous sommes des hommes et des femmes qui sont soumis à la volonté de Dieu. Et dernièrement, enfin, cinquièmement, je crois, d'après votre comptabilité aussi, une obéissance sacrificielle. Ça fera mal par moment d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y aura d'une part ce que je veux, ce qui me réjouit et ce que lui veut. Je viens dire à quelqu'un, même quand tu ne comprends pas, même quand ça fait mal, continue. Nous avons un Père responsable. À quoi doit-on nous soumettre ou obéir? Une question importante à laquelle j'ai tenu à répondre ce matin. Mais à quoi doit-on obéir, pasteur? Je sais que ce sujet, ce thème est très vaste. Je vais le résumer en quelques points, par la grâce de Dieu. À quoi doit-on obéir? Ma réponse est simple. À la parole de Dieu. Que nos nouveaux convertis lèvent leur Bible, s'il vous plaît. Levez vos Bibles, levez vos Bibles. Et ceux qui sont dans l'assemblée, qui ont aussi leur Bible, levez vos Bibles. J'aimerais vous rappeler que ces livres ne sont pas des agendas où vous devez laisser un peu d'argent, non? Ces livres ne sont pas des porte-monnaies où vous devez laisser les invitations qu'on vous donne à certains séminaires. Ce livre n'est pas un support pour d'autres livres. Ce livre contient, mes frères et sœurs, la volonté parfaite de Dieu. Et qui veut mener une vie d'impact doit obéir aux paroles contenu dans le livre que vous avez. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque. Si, grand. Ce n'est pas qu'un chant pour vous permettre d'entrer, non. Ce n'est pas un chant de parade avec une belle fanfare, non. C'est tout un message solennel parce que votre croissance dépend de votre appétit par rapport à la parole, cette nourriture qui est entre vos mains. Alléluia. Elle sera douce par moments, mais elle sera très souvent amère dans vos entrailles parce qu'elle confrontera vos convictions, vos ambitions et votre personnalité. Elle saura vous dire dans les yeux ce que les gens vous disent tout bas et ce que les gens parfois n'osent pas vous dire. Lisez-la avec un cœur humble, et vous aurez l'impression que Dieu vous parle à vous personnellement. Pourquoi doit-on lire la parole? Pourquoi doit-on obéir à la parole de Dieu? Trois raisons, mais une raison générale, parce qu'elle nous révèle, un, la personne de Dieu, son plan, ses projets, son amour, deux, ses voies, trois, sa volonté parfaite. Pour ceux qui écrivent, notez, nous ne pouvons pas connaître Dieu et sa volonté en dehors de sa parole. Et nous ne pouvons prétendre lui être obéissant si nous sommes en contradiction avec ce que sa parole enseigne. Je répète, nous ne pouvons connaître Dieu en dehors de sa parole. Et nous ne pouvons prétendre lui être obéissant si nous marchons en contradiction avec sa parole. Deuxièmement, parce qu'elle est la règle de foi et de conduite qui fixe et définit la vérité absolue. Cette parole contient la vérité et cette vérité est absolue. Absolue. Nous croyons que vous êtes sauvés parce que la Bible le dit. Nous croyons que Jésus reviendra parce que la Bible le dit. Nous croyons qu'il est né d'une vierge femme parce que la Bible... Nous croyons qu'il reviendra parce que la Bible... La seule évidence que nous avons que cette parole est vraie, c'est que nous avons la certitude qu'elle a été inspirée de son auteur, Dieu lui-même. Cependant, nous avons un constat amer, mes frères. Nous constatons actuellement qu'il existe une tendance croissante qui consiste à élever les émotions, à élever les opinions et les expériences personnelles au-dessus du trône de la parole de Dieu. Cette tendance n'a pas sa place à l'Église. Au-dessus de la parole de Dieu, il n'y a personne. Nous sommes tous soumis à la parole de Dieu. Si tes expériences, tes émotions ou encore tes opinions vont en contradiction avec ce que la Bible enseigne, je t'exhorte à la repentance. Pour ceux qui écrivent, notez, le disait une fois le docteur Rémy, un frère et un ami, le réma de Dieu ne devrait pas contredire le logos. Mais comment tu arrives à comprendre ces choses? Révélation, mon cher. Réma. Nous sommes ouverts au réma, mais que ce réma trouve sa base dans le logos. Que ce réma ait pour source le logos. Que ce réma ait pour base ou pour raison l'illumination d'un texte qui est déjà écrit. Ne nous apporte pas ce qui n'a pas été encore écrit.
Évoluons.
Loin de moi l'idée de la polémique. Avançons. Deuxièmement, un deuxième constat, la prophétie ne devrait pas contredire le logos. Je suis pentecôtiste, je crois au prophétique et vous aussi certainement, parce que l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas mépriser, mais plutôt analyser. Malheureusement, nous évoluons dans une génération où l'analyse de la prophétie est synonyme de combat contre le prophétique. Mais pourquoi tu analyses ma prophétie? Parce que c'est ce que la Bible nous recommande de faire. Aujourd'hui, quand on analyse une prophétie, le prophète se sent lésé. Je viens dire à mes frères les prophètes, et nous sommes tous prophétiques, ne nous sentons pas lésés lorsque nous analysons ce que vous avez dit recevoir de Dieu à la lumière de la parole. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il est un Dieu d'ordre et ce qu'il dit arrive certainement. Ésaïe 40, le verset 8, la Bible dit, l'herbe sèche, Ésaïe 40, 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je n'ai pas besoin d'une Bible révisée pour la donner à ma fille aînée, Hilary. Non. La même Bible qui a eu de l'impact sur moi, c'est la même Bible qui aura de l'impact dans la vie de ma fille. Un auteur a dit, Dieu n'a pas besoin de changer de solution ou de formule au problème de l'humanité parce que le problème de l'humanité est resté le même depuis la chute d'Adam. La désobéissance, le péché. Point, trait à la ligne. L'obéissance. Pour ceux qui écrivent, notez avec moi quelques bénéfices de l'obéissance à la parole de Dieu pour mener une vie d'impact. Premièrement, l'obéissance à la parole de Dieu est la clé de l'impact. Je répète, la clé de l'impact, virgule, de la réussite et du succès. Pasteur, quelle est la clé du succès? Quelle est la clé de la réussite? Simple, l'obéissance. La Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Pas afin que tu aies du succès. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Très souvent, c'est comme ça qu'on répète, malheureusement. La Bible dit que ce livre de la loi, il dit, médite-le jour et nuit, virgule, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce texte affirme que le garant de notre réussite, c'est Dieu. Celui qui travaille à nous donner de l'impact, c'est Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est lui être fidèle. Tout ce que nous avons à faire, c'est lui être obéissant. Celui qui veut être grand devant les hommes doit rester petit et humble devant Dieu en faisant ce qu'il ordonne. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui élève et celui qui abaisse. Pour ceux qui écrivent, notez encore, l'obéissance à la parole de Dieu est la preuve de notre fidélité et la garantie de notre impact. L'obéissance à la parole de Dieu est la preuve de notre fidélité. J'irai même plus loin, elle est la preuve de notre foi. Un homme de foi n'est pas d'abord qu'un homme de prière. Un homme de foi est d'abord un homme obéissant à ce que la Bible ordonne. Quand la Bible dit « Bénis ton ennemi », même quand ton ennemi n'est pas pardonnable, pardonne et bénis. Parce que c'est ce que la Bible nous recommande de faire. Jeune baptisé, le chemin est encore long. J'ai envie de vous dire, mangez et buvez. Alléluia. Dieu tient toujours à ses promesses. Dieu tient toujours à ses promesses. Et Nombre 23, le verset 19 nous le prouve. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est tout puissant. Quand il dit une chose, la chose arrive. J'aime ce que le psaume dit, ce que ta bouche ordonne, ta main l'exécute. Jérémie 1er, le verset 12e, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Je disais, Dieu tient toujours ses promesses, mais très peu arrivent à le témoigner aujourd'hui. Pourquoi? Par manque d'obéissance fidèle. Pas par manque d'obéissance circonstancielle. Pas par manque d'obéissance saisonnier. Pas par manque d'obéissance sinusoïdale. Non, non. Par manque d'obéissance fidèle. J'exhorte et j'encourage quelqu'un ce matin. Sois constant dans ton obéissance à Dieu. Et tu témoigneras haut et fort qu'il est fidèle. Notez pour ceux qui écrivent, la puissance de la parole de Dieu est tangible, réelle, manifeste et évidente avec gloire. J'ai senti qu'il fallait mettre gloire à la fin. Avec gloire dans la vie de ceux et celles qui la pratiquent. Je répète, la puissance de la parole de Dieu est tangible. Elle est réelle. La fidélité de Dieu est manifeste et évidente avec gloire dans la vie de ceux et celles qui la pratiquent. Il dit, lis, médite et pratique. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, lis-le. Il est difficile de méditer sans lire. Mais il est possible de lire sans méditer. Cependant, nous saurons que tu as lu et que tu as médité si tu arrives à mettre en pratique. Un homme qui pratique est lui-même la preuve qu'il connaît, qu'il a lu et qu'il a médité sa Bible. Je nous encourage, mes frères, aimons les enseignements. Aimons les enseignements. Je le dis à ma honte, nous avons encore beaucoup du mal à gérer le culte du mercredi qui, chez nous, est un culte d'enseignement. Nous pouvons être fort nombreux le dimanche, mais le mercredi, on a l'impression que c'est une cellule de la paroisse. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais le jeudi, qui est un temps de prières et de prières fortes, de prières de feu et d'esprit, vous avez l'impression que ce sont les mêmes fidèles qui fuient le mercredi, qui viennent le jeudi. Et nous nous sommes rendus compte d'une chose, beaucoup veulent la main de Dieu, expérimenter la main de Dieu, mais n'ont que faire du cœur de Dieu. Ils n'ont que faire de ce que Dieu pense, que Dieu nous aide. Mais ce n'est pas le même problème ici. Vous, vous aimez les enseignements. Vous étiez nombreux, aïe, pendant la semaine. Oulala, quelle foule, mon Dieu. Bon, je ne sais pas pourquoi vous rigolez. C'est peut-être votre propre conscience qui vous accule. Mais je viens dire à quelqu'un, si ta conscience t'accuse, Dieu est au-dessus de ta conscience. Et tu as encore la possibilité de bien faire. En d'autres termes, lis, médite et pratique. Et l'Éternel s'engage en disant, moi,
j'agirai.
Je te donnerai de l'impact de manière à ce que les hommes regardent et disent ça, c'est le doigt de Dieu. Et nul ne peut faire, comme disait Nicodème à Jésus dans Jean 3. Il dit, nul ne peut faire ce que tu fais si l'Éternel n'est pas avec lui. Pour vivre l'évidence de Dieu dans sa vie et dans sa marche, pratiquons la parole de Dieu. Jacques 1:2, un texte qu'on connaît. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Qui veut mener une vie d'impact, il ne suffit pas de remplir son bloc-notes des plus belles prédications de meilleurs orateurs qui existent. Non, 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 c'est bien. Mais ne vous bornez pas à écouter. Pas que ça, ne vous contentez pas que de l'écoute. Acceptez de prendre le risque de mettre en pratique ce que vous avez appris. Que cela soit logiquement correct ou pas. Alléluia. Quand il dit à un vieillard qui a sa femme, une vieille aussi, doublement ménopausée, il dit, je te donnerai un fils. Est-ce que c'est logique? On a envie de dire à Jésus, papa, je suis docteur, je suis master, ou j'ai deux doctorats en médecine. J'ai deux doctorats.
Dans l'état où mon épouse est arrivée, elle ne peut plus concevoir, Seigneur. Elle ne peut plus.
À moins que tu pratiques au travers de, il n'a pas besoin de ta science. Parce que la logique de Dieu est très souvent contraire à la logique des hommes. Et c'est ce que la Bible appelle la foi. Qui veut porter du fruit dans son activité, qui veut avoir de l'impact dans sa vie, doit être obéissant. Qui veut aller de gloire en gloire avec le Seigneur, doit être obéissant. Suivre, obéir et mettre en pratique les instructions qui ont été clairement données. Pour ceux qui écrivent, notez enfin, pour ce premier point, qui veut marquer son temps ou sa génération doit accepter de payer le prix de l'obéissance totale, sans murmure et sincère à la parole de Dieu. Tu veux avoir de l'impact? Prends le risque de lui obéir. Prends le risque d'abandonner ce que tu fais sur base de sa parole. Pierre a vécu la pêche miraculeuse parce qu'il a dit à Jésus, « Sur ta parole, je jeterai le filet. » Pierre, as-tu l'évidence qu'il y a du poisson là-bas? Non, je n'ai aucune évidence. Mais cet homme que je viens d'entendre là ce matin, ce n'est pas un homme lambda, c'est quelqu'un d'autre. Alors sur sa parole, en d'autres termes, je décline toute responsabilité de l'échec de la tentative. Oui, c'est ce que ça voulait dire. Kama bibane, faso tutakuna samuima ibaba. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et Pierre a jeté le filet. Il a commencé à remonter le filet. Surprise. Je viens dire à quelqu'un, Dieu réserve toujours une surprise au bout du filet à ceux qui jettent sur sa parole. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, toi qui m'écoutes ce matin. Jette le filet sur sa parole. Sur sa parole, jette le filet et tu ne seras point confus. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, inébranlable, affermie. Et Daniel va même plus loin, il dit, ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Lorsque vous voyez un homme désespérément désespéré aux yeux des hommes, avancer avec assurance comme Abraham, qui crut contre toute espérance, continuer d'avancer, comprenez tout simplement qu'il sait en qui il a cru. Paul, comment tu fais pour tenir? Paul peut dire, je sais en qui j'ai cru. Il pouvait dire, le Dieu, l'ange de Dieu, du Dieu auquel j'appartiens, m'a rassuré qu'aucune vie ne sera perdue. Quand Dieu parle, mes frères, la nature s'aligne pour exécuter sa volonté. Qu'il y ait guerre ou qu'il n'y ait pas guerre, qu'il y ait volcan ou qu'il n'y ait pas volcan, moi je sais une chose, il est maître de temps et des circonstances. Quand il a fait la promesse, il avait vu la circonstance qui arrivait. Mais malgré cela, il a promis de faire des choses impossibles. Il est possible d'être sur un même sol et de ne pas subir le même sort. Telle est la grâce qu'il accorde à ceux qui lui sont obéissants. Si c'est à toi que je parle, tu diras Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis différent. J'étais tenté de dire, dis-lui, prends mon numéro, mais ah, Dieu a beaucoup d'enfants, hein. Dis-lui encore, je suis différent. Vous êtes fort en conjugaison, j'entends les femmes dire te. Je n'ai rien contre les femmes, hein. Je vais vous englober juste dans l'humanité, l'humanité. Deuxièmement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Deuxièmement, toujours parlant de bénéfices de l'obéissance. L'obéissance est la preuve de notre soumission à Christ en tant que ses disciples et l'évidence de la plénitude de l'Esprit. C'est ici que moi et mes frères pentecôtistes et amis des églises de réveil, il nous arrive de se tirer le chignon. L'obéissance, mes frères, à la parole de Dieu est la preuve réelle, sincère, qui ne peut, sans contredit, voulais-je dire, à notre soumission à Christ en tant que ses disciples. Je lui suis soumis parce qu'il est mon maître et je suis son disciple. Gouverneur, mais disciple du Seigneur. Professeur, mais disciple du Seigneur. Mécanicien, mais disciple du Seigneur. Ainsi, c'est un gouverneur, un président, un ministre, un honorable, un homme de Dieu différent qui, avant de voir sa position, reconnaît d'abord celle qu'il a devant Christ. Un doulos, un esclave. Je ne fais pas ce que je veux dans la position de pouvoir que j'occupe parce qu'au-dessus de moi, il y a mon maître. Et je suis censé agir de manière irréprochable afin que le nom de mon Seigneur ne soit pas blasphémé. Je ne ferai pas l'apologie de mon maître par des bons discours théologiques. Non, pas seulement, mais aussi par la qualité de vie que je m'engage à mener au milieu d'une génération qui essaye de m'intimider. Je viens dire à quelqu'un, ne te laisse pas intimider. Parce que Jésus a dit, ne craignez pas le monde, car moi, j'ai vaincu le monde. Ils ne peuvent tuer que le corps et la chair. Ils ne peuvent pas toucher à mon éternité. J'ai toujours aimé ce chant qui dit que Dieu, Mungu kuna magari ma elfu. Na ni na 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 ni na 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 ni na na. La suite. Unichagulie mwenyewe bwanangu nifike salama. Aujourd'hui, ce chant est devenu un chant spécialisé dans le deuil. J'ai jamais compris pourquoi. Et pourtant, ce cantique est l'expression de notre espérance que quel que soit ce que nous vivons sur la terre aujourd'hui, nous avons un avenir éternel. Et le problème n'est pas comment je quitterai la terre, mais où est-ce que j'irai après l'avoir quitté. Au nom de Jésus, que Dieu nous donne de ne pas rater le ciel. Jean 15, le verset 14, la Bible dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis, mais la condition, prouvez-moi que vous êtes aussi, que vous acceptez cette amitié en faisant ce que je vous commande. » Luc 6, le verset 46, la Bible dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» En d'autres termes, si vous voulez vraiment me donner la preuve que vous êtes mes disciples, faites ce que je vous dis. Que cela te plaise ou pas, fais-le parce que moi, ton maître, ton Dieu, je te l'ordonne. Parce que moi, ton maître, ton Dieu, je te le demande. Parce que cela réjouira mon cœur. Alléluia! Paul dit dans Galates 2:20, un texte que j'aime, et cela est une clé pour mener une vie d'obéissance totale à Dieu. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. En d'autres termes, je suis l'extension de la vie de Christ au milieu de mes semblables. Tu veux voir Jésus? Eh bien, regarde-moi. Mais la question qui se pose, quand on te regarde, est-ce que c'est vraiment Jésus qu'on voit? Pour cette fois-ci, je ne vais pas te demander de dire ça à ton voisin parce que ça peut créer un scandale. Faites ce que je dis. Luc 4, le verset premier. Jésus encore s'illustre en modèle. Et Jésus, la Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il n'est pas allé chasser les démons. Il n'est pas allé démontrer la puissance de la main glorieuse de Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, il fut conduit dans le désert. Il a reçu une orientation du Père. Ne va pas dans la ville, va dans le désert. Il est difficile d'avoir la capacitation, l'huile, l'onction, avoir la garantie qu'on est prêt et rester encore dans le va, cache-toi. Je viens dire à quelqu'un, accepte la préparation que Dieu t'impose, même quand tu as l'impression d'être prêt. Il n'arrive jamais avant l'heure et jamais après l'heure. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Marchez selon l'esprit, dit Galates 5:16, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Peut-être une dernière vérité, si vous me le permettez. Et nous allons nous arrêter par là et nous pourrons prier. Nous pourrons prier. L'obéissance à Dieu exigera toujours le choix du maître que l'on veut servir et plaire. La notion de l'obéissance nous imposera toujours le choix du maître auquel on veut vouer allégeance. Matthieu 6, 24 nous dit, « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Je ne peux avoir un pied dedans et un pied dehors. Pasteur, je suis un bon musicien à l'extérieur, mais si vous avez besoin de moi, je peux aussi être un bon mercenaire à l'église. » Nous ne voulons pas de mercenaires. Nous voulons d'hommes et de femmes qui s'engage à servir Dieu et Dieu seul. Que ça paye maintenant ou que ça ne paye pas encore, sers-le. Nous devrons choisir. Je viens dire à un frère ou à une sœur qui a un pied dedans et un pied dehors, mais qui s'est dit disciple du Seigneur, aujourd'hui sonne le gland. Élie pose la question au peuple d'Israël, mais jusqu'à quand allez-vous continuer à tanguer de deux côtés? Si Baal est Dieu, choisissez Baal. Si le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, alors restez avec le Dieu d'Israël. Alléluia. Choisissez qui vous voulez servir. Soit mourir en Christ ou vivre sans lui. Jacques 4, 7, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Retenez que Jésus n'a pas chassé le diable par la prière. Il n'a pas dit « Oh !» J'ai senti des langues venir même. Il n'a pas dit « Oh Satan, je te maudis, va-t'en !» Non, non. Lorsque Satan est venu avec « Il est écrit », lui aussi lui a dit « Il est écrit ». Il est aussi... Il revient en disant « Il est écrit !» Il dit « Il est aussi écrit ». Le diable viendra toujours nous tenter en déformant ou en tordant le sens de la parole qu'on pense connaître. Frère, connais ta parole. Et quand tu obéis, sois un homme de conviction. Pas un homme qui, pendant le message, dit « Amen, Amen !» Ici, il n'y en a pas. Dehors, là, il y a des églises où quand le pasteur prêche, tout le monde est déjà debout. « Oh, preach, preach oh. !» Et il y a une onction d'anglophonie qui tombe. « Go deeper, daddy, go deeper !» Et vous ne savez pas, should I go deeper in English or in French? Teya papa, teya kaka, teya. Le diable redoute les hommes qui sont soumis à Dieu. Soumis à Dieu. Comme Job, que j'ai, que je n'ai pas. Je lui reste fidèle. Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Il va même plus loin dans Philippiens 4, 12. Il dit, j'ai appris à. Mais au verset 13, il dit, cependant, je puis tout par celui qui me fortifie. En d'autres termes, je suis rendu capable de faire ce que je fais par ma connexion avec celui qui m'a appelé. Évoluons pour finir. Le diable accepte les compromis et les partages. Notez pour ce qui est écrit. Le diable accepte le compromis et le partage. Dieu, lui, ne fait jamais des concessions. Je tiens à le répéter. Le diable Il est prêt à laisser un magicien venir à un culte.
Il n'y a pas de souci. Kanisa tu, wende, oh.
Il n'y a pas de souci. Kuomba tu, oh, omba. Mais, tout ce qu'il y a, ça n'arrête pas, hein? Il ne faut pas arrêter. D'accord? Ok. Et on vient à l'église. Quand on rentre à la maison, on est victime du diable, victime de la chair. Tout ça pourquoi? À cause de concessions qu'on bâtit. Je ne sais pas ici, mais j'ai déjà été dans une église où avec des intercesseurs, certains ont le courage de me dire « Pasteur, moi je n'aime pas chasser les démons. » Ah bon? J'ai dit « Mais pourquoi ?» Ah, quand on chasse les démons, c'est un effort collectif. Hein? Nous sommes tous là en train de dire « Sors, 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 sors !» Mais quand il y a des retours là, opération Toé Bindaku, il commence à passer chez chacun d'eux. J'étais comme « Mais c'est pas possible, ça, c'est quoi cette histoire ?» Alléluia! Et beaucoup, peut-être parmi vous, sont comme ça. Ils ne veulent pas marcher dans la consécration parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème avec le diable. Mais je viens de dire à quelqu'un, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Si tu le crois, tu diras amen avec moi. Oh, alléluia! Alléluia! Le diable accepte le compromis et le partage. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu en qui nous croyons, ne fait jamais de concession. Il est radical. Soit tu m'aimes, soit tu me quittes. Ah oui? Soit tu m'aimes, soit tu me quittes. Notez encore pour ceux qui écrivent. Et on s'arrête par là. Quelqu'un dit, c'est la deuxième fois qu'il dit ça. Ça ne m'arrive pas souvent. Je crois que c'est l'onction de la maison qui me... Notez pour ceux qui écrivent. Toujours en partant de ce point où nous sommes appelés à faire un choix, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un auteur qui l'a si bien dit. S'il n'est pas seigneur de tout, alors il n'est pas seigneur du tout. Tu es appelé à faire un choix. Et c'est peut-être ce matin que tu dois le faire. Peut-être que tu es là, ça fait un bon bout de temps, tu luttes avec le prix à payer, surtout l'obéissance. Le zèle que tu avais pour Dieu refroidit de plus en plus. Peut-être parce que d'une part les promesses tardent à arriver, peut-être à cause du découragement, de l'adversité, de l'oppression que tu subis. Mais je viens te dire aujourd'hui que c'est encore possible de te relever, de sortir du découragement. Parce que si tu es là, ce n'est pas un hasard. Il a rendez-vous avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est te repentir de ta désobéissance. Mais je vais t'encourager à poser un acte de foi, sans tenir compte de ce que les gens peuvent dire, ni de ce que les gens peuvent penser. Si tu es là et tu reconnais que tu as besoin de la grâce, afin d'être rendu capable de payer le prix de l'obéissance, lève-toi tout simplement là où tu es, et nous allons prier. Parce que l'obéissance coûte très cher. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. La désobéissance coûte très cher, très cher. Adam a perdu la gestion et la gouvernance du monde par la désobéissance. Saül a perdu et l'onction et plus tard le trône à cause de la désobéissance. Tu peux avoir une très grande destinée, mais le diable fera tout pour t'entraîner dans une phase de désobéissance. Les gens ne te voient pas, mais Dieu te connaît. En rapport à l'intimité que tu as avec Dieu, si tu sens que tu as besoin de la prière, lève-toi. Pendant la chorale est en train de nous préparer ces chants merveilleux que j'ai entonné il n'y a pas longtemps en Swahili, qui nous parle de Magar Imael Fou. J'aimerais que l'on chante ce chant pendant un moment et que l'on prie. Mais j'aimerais faire un deuxième appel pour tout celui qui aime Dieu, qui veut marcher dans l'obéissance, mais qui aimerait dire, pasteur, je suis vraiment acculé par plusieurs problèmes, que j'ai l'impression que d'ici là, je vais craquer, je vais lâcher. Je viens te dire une chose, la grâce est encore disponible, même pour toi aussi. Si tu es là, tu marches déjà dans l'obéissance, mais tu sens que tu commences à te fatiguer. Le découragement commence à sonner à ta porte. La tentation devient forte. Tu veux baisser les bras. Si tu es là et tu as besoin de la grâce pour continuer d'avancer et être un modèle, lève-toi, toi aussi, et nous allons prier ensemble. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. Que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent. La Bible dit dans Luc 15, verset 10, « Il y a de la joie devant les anges des dieux pour un seul pécheur qui se répand. » Dieu n'attend pas à ce que la foule se lève pour se repentir ou pour crier à lui. Non, un seul lui suffit. Si tu es là, lève-toi. Lève-toi et commence à prier là où tu es. Oui, si on peut chanter ce refrain. Na na ni na na na. Nous avons nos yeux fermés. Oui, si tu es là, tu peux encore t'élever. Tu peux t'élever. Que Dieu bénisse ceux qui continuent de s'élever. Oui, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dieu fait grâce aux humbles, dit la Bible. Est-ce qu'on peut répéter ces chants d'espérance? Oui, élève la voix. Dieu bénit ceux qui continuent de s'élever. Oh Jésus, ta grâce. Yes. Yes. Je ne veux pas définir le chemin. Définis le chemin et moi j'obéirai, Seigneur. Répétons cela encore, répétons-le encore. Encore une fois, Unichagulie. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Élève la voix et implore la grâce du Seigneur. Dis-lui, Père, j'aspire à la grandeur, j'aspire à l'impact, j'y crois, j'ai la foi, mais je suis incapable de marcher dans l'obéissance. Je suis incapable de marcher dans la consécration. Je suis incapable de payer le prix. Je suis incapable de continuer d'avancer. J'implore ta grâce et ta faveur. Rends-moi capable d'être obéissant. Rends-moi capable d'être obéissant. Obéissant de suivre le chemin que tu me traces. Oui, prie. Prie encore pendant une petite minute. Élève la voix et prie. Oh Jésus. Oh Jésus. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur qui s'est levée, pas devant les hommes, mais devant toi, pour crier grâce et miséricorde, pour crier grâce et compassion, pour crier grâce et aide, pour crier grâce, grâce. Jésus. Femmes qui te craint. Donne-nous d'être une armée d'hommes et de femmes obéissant à ta parole. Donne-nous d'être une armée de chrétiens jusqu'à la mort. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de la mort, qui n'ont pas peur de l'adversité, qui saisissent l'occasion, qu'elle soit favorable ou non, pour manifester Christ au milieu de sa génération. Nous voulons des hommes et des femmes consacrés. Quel que soit le domaine de l'appel, quelle que soit l'activité professionnelle, donne-nous, je t'en supplie, de payer le prix de l'obéissance. Ceux qui marchent dans l'obéissance, accorde-leur ta protection. Tu dis dans ta parole, si tu obéis à ma parole, je t'accorderai la supériorité est sur toutes les nations de la terre. Nous désirons la supériorité comme bénéfice de l'obéissance à la voix de Dieu. Fais-le! Fais-le, Seigneur! Le pasteur Festo, je sens l'invité. Je sens invité le pasteur Festo pour une prière en faveur de tous ceux et celles qui se sont levés ce matin. Et je reste persuadé que le Seigneur est sur le point de commencer quelque chose de nouveau avec tous ceux-là qui s'engagent d'un cœur sincère. Recevons la prière.
Oui, Seigneur. Nous venons d'écouter ta parole. Cette parole puissante, Seigneur, qui nous attire vers toi. Tu as dit, Seigneur, ton fils Jésus-Christ à Jean a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » Merci d'avoir attiré ce bien-aimé par ta parole. Merci, Seigneur, pour cet engagement que les bien-aimés viennent de prendre. Oui, il est facile d'écouter, il est facile de lire, il est facile de venir participer, mais mettre en pratique, ça nous fait du mal. Seigneur, aide-nous à avoir cet esprit de renoncement, cet esprit de l'obéissance à ta parole. Seigneur, tiens la main de chacun de nous, et particulièrement ceux-ci qui viennent de se mettre debout. Ils ont besoin de l'aide qui vient de toi. Ils ont besoin, Seigneur, du soutien qui vient de toi. Ils ont besoin, Seigneur, de l'accompagnement qui vient de toi. Car à eux seuls, ils ne peuvent rien. Avec la faiblesse corporelle qu'ils ont, ils ne peuvent rien. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que tu les soutiennes par ta parole. Que tu les soutiennes par ta main puissante, Seigneur, car ils ont besoin de toi. Manifeste-toi dans toutes les étapes de leur vie, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, à eux, afin qu'ils continuent encore à voir ta splendeur, ta magnificence, afin qu'ils ne rentrent jamais derrière, mais qu'ils aillent toujours de l'avant. Béni sois-tu, Seigneur, car nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.